Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans ce préau d'école à l'occasion des élections législatives. Voilà. Alors, je me présente, Harmonie Borde, et je suis la suppléante de Nathalie dans cette élection. Voilà. Alors, je vais vous dire que Lutte ouvrière présente des candidats partout, pratiquement, 552 candidats. Et dans notre circonscription, qui est la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis, notre candidate est Nathalie Arthaud, que vous connaissez tous, qui a été notre candidate à la présidentielle. Voilà. Un de nos camarades d'Aubervilliers, alors qui est un ancien ouvrier de Râteau, Alstom, La Courneuve, voilà, et qui est connu à Aubervilliers, et puis dans la circonscription également. Et moi, j'ai oublié de préciser un petit peu, je suis une ancienne des usines Roussel-Uclave, qui sont devenues Sanofi maintenant, mais surtout qui ont été fermées à Romainville, voilà. Eh bien... Voilà, je vais passer la parole à Nathalie qui va développer le programme que nous défendons dans cette élection législative. Et puis après, si vous le voulez bien, on débattra tous ensemble. Enfin, on se parlera. Quoi.
Alors, je ne vais pas déroger à la tradition. Donc, travailleuses, travailleurs, camarades et amis, bienvenue à cette réunion. Alors on ne peut pas dire que l'élection de Hollande ait déclenché un déferlement d'enthousiasme. Hein, il y a en effet eu un soulagement et un contentement chez les travailleurs, mais c'était davantage du fait de l'élimination de Nicolas Sarkozy hein, que de l'élection de Hollande. C'est vrai que Nicolas Sarkozy avait fait quand même la preuve hein, de son arrogance, de son mépris vis-à-vis des travailleurs. Il avait bien servi la soupe, effectivement, au patronat et aux plus riches de ce pays. Et je crois qu'effectivement, s'en débarrasser, c'était quand même déjà un bon point pour beaucoup. Alors, même s'il n'y avait pas beaucoup d'attentes et beaucoup d'illusions dans Hollande, il n'empêche que dans les classes populaires, beaucoup veulent croire au changement. Et Hollande en joue quand même hein, de ce changement. Depuis qu'il est élu, depuis les premiers jours hein, de son élection, on voit qu'il prend l'exact contre-pied de tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Il a commencé par baisser son salaire de 30%, celui des ministres, alors que Sarkozy l'avait augmenté, lui, de 172%, alors que Sarkozy aimait se déplacer en avion ou en hélicoptère, lui, il aime beaucoup le train et la voiture, il a immédiatement tenu à faire signer une charte de déontologie à tous ses ministres, alors que Sarkozy avait placé les membres de sa famille ou ses amis à des postes d'importance. Enfin bon, il a pris toute une série de mesures symboliques, mais pour montrer que voilà, c'en était fini hein, de cette présidence bling-bling et était venu le temps de la présidence modeste et normale. Alors tout ça, c'est évidemment des mesures complètement symboliques qui, dans tous les cas, ne changeront pas la vie des travailleurs, qui sont là pour donner le change, mais qui ne changeront évidemment pas la vie dans les quartiers populaires. À côté de ça, il a annoncé une série de mesures vis-à-vis des plus modestes. Hein, je veux parler de l'augmentation de l'allocation rentrée scolaire, du coup de pouce sur le SMIC. Je veux parler aussi du blocage des loyers à la relocation et puis de ce fameux décret sur les retraites. Mais toutes ces annonces, elles ne sont sûrement pas à la hauteur des besoins, à la hauteur de ce qu'il faudrait. Si on prend le coup de pouce sur le SMIC, Michel Sapin, le ministre du Travail, a annoncé que de toute façon, il ne serait sûrement pas de 5%, qu'il serait inférieur à 5%, c'est-à-dire dans tous les cas qu'il sera inférieur à 0,46 € hein, l'augmentation par heure. Hein, donc voilà le coup de pouce que le gouvernement Hollande, dont le gouvernement Hollande se vante. Et bien sûr, ce coup de pouce n'est absolument pas du niveau de ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, le SMIC net, il est autour de 1 100 €. Il est absolument insuffisant pour boucler les fins de mois et faire face à toutes les factures qu'on a à payer. Donc, nous disons que le SMIC devrait être porté à 1700 euros net par mois et qu'il devrait y avoir une augmentation de tous les salaires et de toutes les pensions de retraite et une augmentation au moins du même niveau que les hausses de prix qu'on a subies ces dernières années. Hein, parce qu'on a vu l'augmentation effectivement du prix de l'électricité, des carburants, des mutuelles, des loyers, de toutes les charges. Et évidemment, les salaires n'ont pas suivi. Donc, pour véritablement ne pas s'appauvrir, il faudrait en réalité de véritables augmentations de salaires et les indexer sur le coût de la vie. On est donc bien loin de cela avec cette annonce de coup de pouce sur le SMIC. Il y a eu l'annonce il y a 3 jours par Cécile Duflot de ce blocage des loyers, mais seulement à la relocation. Alors c'est donc pas un blocage des loyers. Les loyers peuvent continuer d'être augmentés de l'inflation, comme les propriétaires pourront le décider, selon le prix du marché. Ce qui sera donc encadré, ce sera les abus lorsque le propriétaire change de locataire. Et là encore, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et surtout, ça ne répond pas au fait qu'il manque cruellement de logements et de logements abordables à un salaire ouvrier. Aujourd'hui, y compris en Seine-Saint-Denis, il manque des dizaines de milliers de logements. Et il faudrait prendre des décisions d'urgence pour les construire, ces logements. Ça voudrait dire, évidemment, que l'État se charge, lui-même, de trouver les terrains, de les préempter, de les acheter, et se charge lui-même de mettre en place un service public de construction de logements en embauchant directement les maçons, les électriciens, les architectes, tous les travailleurs nécessaires pour construire ces logements et de façon à les construire à prix coûtant et de façon à pouvoir effectivement construire ces logements sociaux, ces logements donc qui pourraient être abordables pour une famille ouvrière. Donc ça veut dire évidemment prendre des décisions et des mesures résolues et surtout se donner les moyens financiers pour les construire. Mais ça serait tout à fait à la portée de l'État en réalité. Et ce problème du logement, ça fait quand même partie des problèmes qui sont véritables, c'est un véritable scandale. Un scandale qui dure depuis des dizaines d'années. On se souvient de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et on les a tous vus se succéder au pouvoir, la gauche et la droite, sans être en mesure de répondre à ce problème qui est pourtant un problème vital. Et c'est pas l'annonce de Cécile Duflot qui va permettre de résoudre ce problème-là. Et puis il y a le fameux décret sur les retraites. Alors on a beaucoup entendu que le gouvernement faisait en plus un petit cadeau, faisait un petit bonus aux travailleurs qui ont commencé à travailler tôt, entre 18 et 19 ans, et qui ont cotisé 41 annuités, et qui auraient connu des périodes de chômage, ou des femmes qui auraient eu des enfants. Il leur fait un petit bonus, un petit cadeau de 2 trimestres, mais en réalité... Même cette annonce-là fait que ce retour à la retraite à 60 ans est réservé à une toute petite minorité. C'est réservé à une toute petite minorité et ça reste donc une mesure extrêmement injuste, d'autant plus injuste que, quand même, le Parti Socialiste l'avait combattu, l'avait dénoncé, cette réforme de Sarkozy, avait dit tout le mal qu'il en pensait. Eh bien voilà, le voilà maintenant au pouvoir et le voilà qu'il ne revient pas. Qui n'annule pas ces reculs, mais qui l'aménage à la marge, finalement, cette réforme. La réalité, c'est qu'il entérine. Il entérine les reculs qui ont été imposés par Sarkozy. Et je crois que ça c'est ce qu'il faut avoir en tête, en fait, de cette politique de Hollande. C'est que c'est une politique qui va se situer dans la continuité de la politique de la droite. Et cette continuité, elle est particulièrement remarquable quant aux engagements que Hollande a pris vis-à-vis des banquiers. Parce que pendant toute cette campagne, on l'a entendu, hein, donner des gages, s'engager vis-à-vis des financiers en disant que de toute façon la France rembourserait ses dettes, se donnerait les moyens de résorber les déficits, de revenir à l'équilibre. Alors voilà, ça pour nous c'est très important, hein, cette prise de position, parce que ça montre quand même que c'est un gouvernement qui se positionne du côté de la bourgeoisie et des plus riches. Parce que cette dette qui a effectivement explosé sur les 5 dernières années, c'est une dette qui a été faite justement par les grands groupes industriels et par les banquiers. C'est une dette qui a été faite parce que le gouvernement s'est porté au secours des banques, s'est porté au secours des groupes de l'automobile, hein, en leur accordant des subventions, des milliards d'aides publiques. Et c'était effectivement pour garantir, pour sauvegarder la fortune et les profits de ces gens-là. Cette dette a donc explosé de ce fait. Et entendre aujourd'hui un gouvernement de gauche dire que c'est notre dette à nous tous et que nous avons tous à la payer et à nous serrer la ceinture pour l'honorer, eh bien ça montre qu'il va continuer cette politique qui consiste à prendre dans la poche des travailleurs et des plus pauvres pour alimenter les profits et les fortunes des plus riches. Donc voilà, ça s'appelle effectivement une politique bien favorable à la bourgeoisie et qui est dans la continuité de celle qu'on subit en réalité depuis des années. Alors, on entend quand même autour de nous beaucoup dire « bon, mais il faut lui laisser le temps. Hein, ça fait que 3 semaines qu'il est au pouvoir. Bon, il ne peut pas tout faire en 3 semaines. Il faut attendre un petit peu de voir. » Bon, c'est vrai qu'en 3 semaines, on ne peut pas tout faire, ça, c'est évident. Ceci dit, on peut quand même dire ce qu'on va faire. On peut quand même prendre des engagements. On peut quand même se positionner, dire ce qu'on va interdire, dire ce qu'on va autoriser. On peut quand même, on peut quand même s'engager en 3 semaines. Ça c'est quelque chose de possible. Et on constate que non, ce gouvernement ne s'engage pas. Et en particulier, il ne s'engage pas vis-à-vis des travailleurs qui sont aujourd'hui menacés par les plans de licenciement et par les fermetures d'entreprises. On connaît, et ils sont les premiers à connaître d'ailleurs, toutes ces entreprises qui menacent de fermeture. Hein, je veux parler de Fralib dans les Bouches-du-Rhône, de Petroplus non loin de Rouen, du Haut-Fourneau de Florange, d'ArcelorMittal, et puis bien sûr de Peugeot-Citroën à Aulnay-sous-Bois. Tous ces cas d'entreprises, le Parti socialiste les connaît très bien. Il a envoyé des représentants rencontrer les travailleurs pendant la campagne électorale. Et ce ne sont donc pas des choses, une situation qu'ils découvrent. Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que le gouvernement ne s'est absolument pas engagé, n'a absolument pas assuré aux travailleurs de ces entreprises que leur emploi serait préservé et que leur salaire serait garanti et qu'ils ne seraient pas mis à la porte. Hein, et pourtant, ils ont commencé à les recevoir, hein, les uns après les autres. Arnaud Montebourg a reçu, il n'y a pas bien longtemps, les travailleurs de Florange, de la scierie de Florange, et il leur a promis de faire une expertise industrielle. Bon, alors ça, voilà, c'est ce qu'ils vont nous présenter comme de l'action, hein. Tout ça, c'est vraiment c'est des mots en l'air. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de faire une expertise industrielle pour savoir qu'un groupe comme ArcelorMittal, qui est richissime, qui est le premier groupe mondial de l'acier, a les moyens financiers de maintenir en activité les hauts fourneaux de Florange? Il n'y a absolument pas besoin. Hein, et pas besoin non plus de faire une expertise industrielle pour savoir que ArcelorMittal a déjà fait ses calculs et que s'il veut fermer cette aciérie, c'est parce que elle est peut-être moins rentable ou parce qu'il fait autrement en surchargeant d'activité les autres sites. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que justement, l'argent, il existe pour maintenir tous ces emplois à Florange. Il existe pour maintenir tous ces salaires et qu'on pourrait l'imposer justement à Arcelor. De la même façon qu'on pourrait imposer à la famille Peugeot et au trust PSA de garder l'usine d'Aulnay-sous-Bois ouverte. Hein. De la même façon qu'on pourrait lui imposer, en lui interdisant tout simplement et en l'obligeant ce trust à répartir le travail entre tous les sites, à répartir le travail entre tous les salariés, évidemment sans diminution de salaire. Donc tout ça, c'est des mesures qui pourraient tout à fait être décidées, mais c'est des mesures que n'imagine pas une seconde Hollande. Hein, c'est des mesures qu'il n'imagine pas parce qu'il n'a pas ce courage-là. Et pour lui, il est trop respectueux de la propriété privée et du patronat pour leur imposer quoi que ce soit. Et c'est évident que ces gens-là, ils auront les mains libres de faire ce qu'ils veulent. Au lieu d'annoncer, de prendre des engagements vis-à-vis des travailleurs, eh bien, tout ce que ce gouvernement sait faire, c'est organiser, vous l'avez vu, un cycle de négociations, un cycle de concertation, de nommer un ministre du redressement industriel qui va être en fait, qui va organiser tout ça, qui va être un ministre de la parole. Voilà. Alors, finalement, c'est un petit peu ça. S'il y a une différence entre la politique de Sarkozy et celle de Hollande, ça sera sans doute celle-là. C'est que Sarkozy et la droite assumaient sa politique anti-ouvrière, assumer et justifier les choix du patronat, des groupes industriels, alors que la gauche, Hollande, Arnaud Montebourg, vont l'enrober dans des tables rondes, dans des réunions avec les syndicats, et ils vont essayer comme ça, y compris d'associer les syndicats à cette politique. Mais ça sera une autre façon, finalement, de faire passer la pilule, mais pour une même politique et pour un même résultat pour les travailleurs. Parce que, évidemment, bon, ben, ça, personne ne le découvre, on est effectivement... l'économie est dans une période de crise profonde, qui en fait est en train de s'aggraver, bien sûr, il faudra donc que quelqu'un fasse des sacrifices dans cette histoire-là, dans cette affaire-là. Il faudra faire des sacrifices. Mais le problème, c'est de savoir qui fait des sacrifices. Voilà. Est-ce que ce sont les travailleurs ? Est-ce que ce sont les plus riches, les groupes, les financiers, les banquiers, les groupes industriels ? Et celui qui prétend ménager et les uns et les autres, eh bien, finalement, ment. Il ment. Faire croire dans cette période de crise... Que l'on peut à la fois sauver les emplois, sauver les salaires, sans prendre sur les profits, c'est une escroquerie. C'est pas vrai. Pour sauvegarder les emplois et les conditions d'existence des travailleurs, il va falloir faire payer la bourgeoisie. Et il va falloir faire payer les banquiers. De la même façon, si on veut sortir les hôpitaux de leur endettement, eh bien, il va falloir combattre le racket des banques. Si on veut donner les moyens à l'éducation, si on veut donner les moyens aux hôpitaux, aux maisons de retraite, oui, il va falloir que l'argent public soit réservé à cela et qu'on arrête d'inonder la bourgeoisie. Alors voilà pourquoi nous disons que, c'est un combat, le problème c'est un rapport de force et c'est de choisir son camp. Et c'est pour ça que... Nous nous présentons dans cette élection avec un programme de lutte. C'est évident que le sort des travailleurs ne va pas se décider au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Le sort des travailleurs, il se décide dans les conseils d'administration des entreprises, de ces grands groupes industriels, de ces grands groupes financiers. Et le sort des travailleurs ne va pas se décider finalement dans les urnes, mais il va se décider dans les luttes et dans le rapport de force qu'on va être capable d'imposer pour que les sacrifices changent de camp. Alors, la seule politique qui vaille pour les travailleurs, c'est donc une politique de lutte et une politique qui, pour nous, passe par la lutte contre le chômage et par la lutte contre les bas salaires. J'ai développé un petit peu les mesures qu'on considère, nous, comme urgentes et comme vitales. Et c'est vrai que nous pensons, nous, que le droit à un emploi et le droit à un salaire digne qui permette de vivre, eh bien, finalement, c'est le seul véritable droit qu'on a dans cette le seul véritable droit que les exploités ont dans cette société capitaliste. Alors, ce droit, eh bien, il va falloir se battre, bec et ongles, pour le faire respecter. Et puis, dans ce programme de lutte, nous pensons qu'il faut absolument se protéger des mauvais coups et des décisions qui sont prises dans ces entreprises en faisant en sorte que les travailleurs puissent contrôler ce qui se passe, puissent contrôler à la fois l'argent qu'il y a dans les entreprises, les comptes, les décisions qui se prennent, les projets qui sont discutés. Nous pensons qu'il faut absolument mettre d'actualité cette revendication de supprimer le secret des affaires, de supprimer le secret bancaire et de donner la possibilité aux travailleurs de tout dire de ce qui se passe dans les entreprises. Donc voilà pour nous des objectifs, des revendications qui répondraient à la situation d'urgence pour les travailleurs. Et nous appelons évidemment tous ceux qui sont d'accord avec ces mesures de voter pour nous, pour les candidats de lutte ouvrière dans cette élection législative. Alors le Parti socialiste va expliquer qu'il lui faut une majorité pour gouverner, mais il ne faut pas à nouveau tomber dans le piège du vote utile. Il y a 2 tours dans cette élection et il faut qu'au premier tour, les travailleurs fassent entendre leurs exigences, qu'ils disent ce dont eux, ils ont besoin et qu'ils se battront pour obtenir cela. Il faut qu'il y ait un courant parmi les travailleurs qui montre qu'ils sont méfiants vis-à-vis de ce gouvernement, qu'ils ne sont pas dupes, que justement il ne s'est pas engagé vis-à-vis des travailleurs et que pour l'instant, toutes les mesures qui sont annoncées, ce sont soit des mesures symboliques, soit des annonces en trompe-l'œil. Donc des travailleurs qui disent qu'ils sont méfiants et qu'ils se préparent effectivement à se défendre par eux-mêmes. Nous pensons et on espère qu'il y aura de nombreux électeurs qui se porteront sur les candidats de lutte ouvrière, parce que ça sera une façon de donner du crédit, de donner de la force et plus de poids, justement, à ces idées. Et il faut absolument affirmer, il faut montrer à Hollande qu'il devra compter sur une opposition sur sa gauche. Il faut que Hollande sache les travailleurs ne se laisseront pas faire et ne se laisseront pas lanterner. Et il faut absolument il faut montrer à Hollande, mais il faut aussi montrer aux travailleurs qu'il y aura une opposition à gauche. Et il ne faut pas laisser le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. Mais il faut au contraire montrer qu'il y a une autre politique pour les travailleurs que celle qui est justement décidée par ce gouvernement de gauche. Il faut absolument qu'il y en ait qui mettent en avant les intérêts politiques, les intérêts matériels, les intérêts de classe des travailleurs. Et il faut aussi que cette opposition, elle s'affirme clairement contre l'ensemble de cette société capitaliste. Une opposition évidemment contre le gouvernement Hollande, mais aussi contre cette société d'exploitation qui est basée sur le profit, sur la rentabilité, qui est fondée sur le marché, sur la concurrence. Et il faut dire qu'il y a des travailleurs qui se battent, qui n'acceptent pas cette société qui est bien sûr injuste, qui est inégalitaire, mais qui est en plus complètement aberrante, parce que plus on produit des richesses, plus il y a de profits dans cette société, et plus les travailleurs vivent mal. Parce que ces profits, finalement, ils sont gâchés. Ils sont gâchés, soit dans des caprices de riches, ou alors ils sont aspirés dans la spéculation, et finalement, ça finit par se retourner contre l'ensemble de l'économie et contre l'ensemble des travailleurs. Donc on est effectivement confronté, là, à une économie capitaliste qui est complètement folle et qu'il ne faut pas accepter. On voit le gâchis que c'est au quotidien. J'ai parlé tout à l'heure du problème de logement. Alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour construire des logements, pour les construire bien, pour les construire vite, rapidement. De la même façon, on n'a jamais eu autant de moyens pour soigner les gens. Et on sait d'ailleurs qu'on est capable de réaliser des prouesses médicales. Et on sait qu'en même temps, beaucoup hésitent pour aller se faire soigner, pour faire changer leurs lunettes ou pour se faire soigner les dents. Donc voilà la situation de cette société où à la fois il y a des potentialités fantastiques, où il y a des richesses immenses qui s'accumulent à un pôle de la société et où finalement les travailleurs qui font tout tourner dans cette société, eux, sont condamnés à des reculs et finalement à la misère. Alors voilà, affirmer qu'il y a une autre façon d'organiser l'économie et que tous ces moyens, eh bien, on devrait les mettre à la disposition de tous en réorganisant l'économie sur de tout autre base, sur des bases collectives. Eh bien, ces idées-là, ce sont les idées communistes, et il faut aussi les affirmer dans cette période de crise, dans cette période de faillite du capitalisme. Voter pour les candidats de lutte ouvrière, ça aura aussi cette signification. Alors pour conclure, je dirais que lutte ouvrière n'aura pas de députés à l'issue du deuxième tour, ça c'est sûr. Il n'empêche que les élections, c'est toujours un moment important pour affirmer justement l'existence d'un programme, l'existence d'un courant d'idées, l'existence aujourd'hui de travailleurs et qui sont conscients justement de leurs intérêts et conscients d'avoir à mettre en avant une politique de classe, conscients d'avoir à combattre le patronat. Donc nous continuerons et nous espérons dans cette élection justement nous montrer le plus possible, avoir le plus possible de voix. Donc bien sûr, n'oubliez pas d'aller voter dimanche et puis d'inviter tous ceux autour de vous d'aller voter pour moi et pour les candidats de lutte ouvrière dans les autres circonscriptions. Et puis, après les élections, eh bien, nous continuerons à dire la vérité aux travailleurs. Hein, même si cette vérité est parfois difficile à entendre, parce qu'il est certain que c'est plus facile de faire miroiter aux travailleurs des progrès, des avancées, en leur expliquant qu'il faut qu'ils s'en remettent à un tel ou à un tel, qu'il suffit qu'ils aillent bien voter, qu'ils choisissent le bon président ou le bon député. C'est sûr que c'est quelque chose de plus facile que de dire aux travailleurs qu'il faut compter que sur eux-mêmes, que sur leurs propres forces et que sur leur capacité à renouer avec des luttes puissantes, avec des luttes du type de celle de mai 68 ou de mai-juin 1936. N'empêche que nous continuerons de dire cela, parce que c'est de toute façon la seule perspective positive pour les travailleurs et la seule véritable politique. Alors voilà, les élections terminées, eh bien, lutte ouvrière sera toujours du côté des exploités, et au-delà de ces élections, eh bien, nous pensons qu'il faut que renaisse un parti communiste. Un parti communiste révolutionnaire, présent partout dans le pays, dans les quartiers populaires, dans les entreprises, et capable de mener au jour le jour tous les combats qui sont nécessaires. Le combat, bien sûr, contre l'exploitation, mais aussi le combat contre le recul des services publics, tous ces combats-là quotidiens. Voilà, alors, et nous continuerons, bien sûr, donc à dire que les travailleurs ont la force, justement, de se défendre, parce que ce sont eux qui sont le plus nombreux, qui font tourner toute l'économie, et que nous sommes convaincus que s'ils sont organisés et que s'ils sont conscients, eh bien, ils ont la capacité aussi de prendre la direction de la société, de prendre le pouvoir et de la réorganiser sur de toute autre base, sur des bases collectives. Et ils le feraient infiniment mieux que ces parasites aujourd'hui, que constituent les bourgeois, et qui sont préoccupés, eux, de leur seul profit privé et qui mènent la société au désastre.